Résonance du feu.
En 2022, durant un été brûlant, un feu d'origine accidentelle a consumé près de 1300 hectares de zones boisées sur la commune de Mostuéjoul, en Aveyron. 2 ans après, que reste-t-il comme trace et mémoire de cet incendie pour les habitants ? Je m'appelle Elsa Souchet et vous écoutez une série documentaire produite pour Radio Larzac. Un projet soutenu par la DRAC Occitanie dans le cadre d'une résidence de journaliste. Épisode 5, reconstruire son paysage. Printemps 2024, les travaux d'urgence post-incendie ont enfin laissé place à un début de régénération des zones brûlées. L'hiver passé a mis un terme aux saisons successives de sécheresse, même si les pluies abondantes ont aussi entraîné de forts ravinements. 2 ans, c'est très peu à l'échelle de la vie d'une forêt, surtout pour envisager de replanter de nouveaux arbres. Alors, sans se précipiter, à Mostuéjoul, sur les parcelles communales, pour l'heure, on attend de voir, comme l'explique Guillaume Bessignol de l'Office national des forêts.
Ce qui a été décidé collectivement entre les acteurs, c'est de voir ce qui se passe d'abord. C'est de se laisser 3 à 5 ans, de constater la dynamique naturelle qu'il peut y avoir avant d'envisager quelconques travaux ou aménagements ou plantations ou autres. Des hauts plateaux de causses avec des falaises sur calcaire et du pin sylvestre, il n'y en a pas beaucoup dans d'autres massifs. Donc on n'a pas beaucoup de recul sur la dynamique. On sait que le pin, il va certainement tomber plus vite que du chêne. Les pins sylvestres ne repartiront pas du pied. Il faut attendre qu'il y ait une régénération naturelle, donc qu'il y ait des graines qui puissent se germer et faire des plants. Par contre, les chênes vont recréer des arbres d'ici quelques années.
S'il serait coûteux et pas forcément évident de reboiser directement les pentes et falaises, sur les grandes parcelles privées du plateau, la situation est différente, parce qu'il y a déjà des plans de gestion avec des coopératives forestières et certains objectifs de production. Alors Muriel, comme d'autres, se prépare à replanter sur une partie de ses terres un mélange de 2 espèces de pins.
Quand vous avez un plan de gestion, vous avez des gens qui veulent derrière du rendement quand même. Et le Crémadis, j'ai demandé à Sylvain Bois à replanter, et ça se fera l'hiver prochain. C'est les résineux qui vont replanter. Malheureusement, même si les gens n'aiment pas trop les résineux, c'est des sols calcaires caillouteux, il n'y a pas trop de choix. S'ils vont faire pin d'Alep et pin noir d'Autriche. Même la DDT est venue ce jour-là avec Sylvain Bois, et comme il a dit, il y a que le pin qui peut être planté dans un sol calcaire, caillouteux, un chêne vert, ça sert à rien, c'est aller jeter de l'argent par les fenêtres.
Ça donne un espèce de sentiment de propriété par rapport à cette forêt, le fait qu'elle ait brûlé, que ce soit traumatisant. Ça donne vraiment ce sentiment que c'est à nous. Pareil le bois, enfin le bois que personne récupère, c'est comme s'il fallait qu'il soit à nous.
Ce sentiment d'une forêt à soi s'est renforcé depuis ce printemps, car il y a de la vie dans le sol brûlé. Le noir et blanc a laissé place à une palette de couleurs. Les plantes et les fleurs repoussent. Et si la tristesse perdure encore, elle côtoie l'émerveillement devant le spectacle grandiose que racontent Marie, Isabelle, Yanis et Claire.
Ça a été compliqué, ça a été dur, ça a été angoissant, mais il en ressort ça, et peut-être que si ça repousse pas à certains endroits, ben pour moi, tant mieux. Je trouve le cause magnifique comme ça, et qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas avant, déjà, tous ces rochers qui sont blancs là-haut, qui sont magnifiques, et toutes ces fleurs. Jamais on voit des fleurs comme ça. Moi, j'ai encore pris, hier à 6h30 en montant au boulot, j'ai pris une photo, et jamais j'ai vu ça de ma vie ici. Ça fait 30 ans que j'habite à Lyoko, j'ai jamais vu ça. Il y a des fleurs comme jamais, et ça, c'est magnifique.
C'est vrai que c'était un paysage qui était absolument dans le ravin, qui était absolument spectaculaire, enfin, assez presque féerique, je trouve. Les troncs d'arbres morts sur pied, même s'ils étaient calcinés donc et noirs, ça faisait pas une ambiance très triste, si triste que ça, parce que il y avait vraiment voilà donc des parterres de mousse immenses, très verts, avec beaucoup de violette, je me rappelle. Ça faisait quand même voilà petit écrin de verdure au final.
À force d'avancer comme ça, on est habitué aux choses, et puis d'un seul coup, on se dit tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette tache rose? Et là, on regarde comme ils font, on se pose, et on voit toute la colline, la pente brûlée, entièrement rose. C'est un éblouissement, c'est la saponnaire de Montpellier qui s'est installée à la place du feu, là où le feu est passé. Et donc, c'est comme si la nature se pense, elle se, voilà, elle est en train de nous dire « Oui, vous avez perdu un paysage, mais regardez. »
C'est magnifique parce que comme j'y suis allée tout le temps en fait, depuis le début, j'ai observé tout ce qui a repoussé, tout ce qui évolue. Et puis ouais, la mousse a continué de couvrir des endroits entiers, une espèce de mousse verte fluorescente là, avec des reflets rouges et orangés. Il y avait des étendues de mousse derrière les rochers comme ça. C'était très beau.
Toutes ces espèces étaient là, cachées dans le sol. Mais désormais que le terrain est dégagé des arbres, elles peuvent grandir et s'épanouir. Une flore cossonarde observée de près par les bénévoles de l'AMBA, l'association mycologique et botanique de l'Aveyron, dont fait partie Christian Bernard, qui reconnaît très bien cette fameuse mousse colorée.
Elle est bien connue des naturalistes, c'est la funère hygrométrique. Funaria hygrometrica. Comme chez toutes les mousses, il y a une tige feuillée. Ensuite, après la fécondation, apparaît un organe qui est une soie avec une urne au bout. Et cette urne produit les spores qui vont être dispersées par le vent. Et en fonction de l'hygrométrie, l'inclinaison de l'urne varie. Et donc là, vous pouvez regarder. Voilà, on voit bien les petites urnes là. Si vous voulez, on est en carrefour climatique. On reçoit les influences méditerranéennes. Puis il y a les influences montagnardes du fait de l'altitude, des expositions aussi à l'UBAC, donc à l'ombre. Et puis on a des éléments de la flore qu'on appelle sarmatique, c'est la flore stépique, par exemple la stipe peinée. Vous voyez le cheveu d'ange là qui occupe de grands espaces sur les plateaux. Et puis on a la flore des Dolomies, la flore dolomiticole, qui est aussi particulière. On a vu aujourd'hui notamment l'aster des Alpes, qui est sous une forme cossonarde particulière.
Un beau tapis de gaillet sur lequel on aurait presque envie de se reposer pour méditer, avec à ses côtés une globulaire, accompagnée de restes de pulsatiles, d'anémones pulsatiles. Et un jaune, monsieur Gégou,
une forbe.
Un
fort petit cyprès.
Avec à ses pieds, donc, une réponse orbiculaire. C'est fou. Avec un pissenlit, bien évidemment. Un petit bragalou affilante de Montpellier en fleurs. Avec les tapis des lanthèmes.
Toute la flore herbacée. Déjà des annuels, puis des vivaces, profitent de ces espaces pour s'installer et prendre des proportions qui sont inhabituelles parce que les concurrences entre espèces ne fonctionnent pas à plein puisqu'il y a des espaces libres. Mais les choses rentrent dans l'ordre, on l'a vu là, on a vu par exemple de la saponaire mélangée à de l'astragale de Montpellier. Bon. Chacune devra trouver sa place dans l'espace qui est disponible.
Et dans cet espace, il y a quelques surprises. Une espèce en particulier attire les curieux, au-delà même du département. Mais chut, personne ne doit savoir, même si, bien sûr, tout le monde sait.
Les champignons dont il ne faut pas parler, Dans la mousse, dans des endroits improbables, où on aurait pensé qu'il n'y aurait plus aucune vie.
Il y a tous les ouvriers, les artisans qui étaient là, ils me disent « Dis donc, t'as été au Mori ?»
Et en fait, c'est comme si ce champignon, il avait attendu 100 ans pour revenir et tout coloniser. C'était franchement improbable.
J'avais déjà entendu parler, donc... Suite à des incendies, ça stimule, on va dire, la pousse des morilles. Et bon, ben, j'en ai entendu parler, je suis allé voir, forcément c'était juste au-dessus de chez moi. Et bon, ben voilà, il y avait en plus ce côté de trouver donc, le trésor des morilles, qui est quand même voilà, un champignon assez prisé en plus, voilà, qui était complètement abondant. Donc c'est vrai que c'était assez imaginaire, quoi. Après, c'était des scènes, quoi, pareil, qui sont assez inimaginables, quoi, auxquelles on ne s'attend pas, de voir des parterres de morilles comme ça. Pour le côté un peu moins bien, c'est que, bon, bah, après j'en faisais partie, hein, mais il y avait du coup beaucoup de monde dans le ravin à ce moment-là qui est parti chercher ça. Ça se conserve très bien séché, donc je l'ai fait, quoi.
Ben, moi, je dis qu'il faut transmettre un message optimiste. C'est... Beaucoup de choses ont été chamboulées par rapport à ce qui existait il y a quelques années, mais année après année, ils vont pouvoir encore s'émerveiller sur cette nature qui est très belle et qui est en train de recoloniser le milieu, quoi.
Il y a les plantes, mais il y a aussi les animaux. Le secteur incendier était riche en faune et connu pour des espèces emblématiques. Les gorges du Tarn hébergent par exemple des milliers de vautours, notamment une vingtaine de couples de vautours moines, la plus grande colonie de tout le territoire national. Un des nids se trouvait sur la zone incendiée. L'un des jeunes rapaces était scruté quelques jours avant le feu par Cécile et Jean-Luc, deux passionnés d'ornithologie.
Oui, ce vautour, quelques jours avant, j'étais encore en train de le regarder et je le voyais debout sur son nid. Et c'est vrai, c'est une des pensées qui m'est venue aussi. C'est, oh bah, il va être cramé, quoi. C'est-à-dire qu'il va être sidéré, parce que lui, c'est pas ce que c'est qu'un incendie. Et c'était en plus un poussin. J'avais été invité par la LPO Grand Causse à aller assister au bagage de ce poussin. Donc, ça m'aurait fait encore plus de mal s'il avait cramé, quoi.
Et là, on s'est dit, le jeune était encore au nid. Il a dû malheureusement brûler. Et puis bon, heureusement, on a appris qu'il s'est envolé et qu'il a échappé aux flammes.
Je l'ai vu, toi, encore au nid, et ouf, il a pu partir. Et il y en avait d'autres qui ont pu partir, mais il y en a un qui a cramé. Mais ça n'a pas été si catastrophique qu'on le pensait, quoi.
Aussi important qu'ait été le feu, il n'y a pas eu d'hécatombe de la faune sauvage. Quelques chevreuils ont été coincés dans un terrain clôturé, des petits mammifères ont été piégés sous terre, mais une bonne partie des bêtes semble avoir pu s'échapper et revenir ensuite. Notamment les mouflons, l'autre espèce emblématique du coin. À l'automne 2022, la reprise de la chasse a fait débat au sein même de la Fédération des chasseurs. Philippe était partisan de la réouverture immédiate, quand Jean-Paul, lui, aurait préféré l'éviter.
C'est sûr que ça ne fait pas du bien. Hein. Mais oui. Bien sûr qu'ils se sauvent. Des vrais cons qui n'ont pas eu de chance, qui sont partis du mauvais côté. Bourrasque brûlante, bon, admettons. Mais de la grosse hécatombe au niveau du gibier, du petit gibier, non, non. Moi, les premières fois que j'y suis remonté, tout était brûlé. Il n'y a plus d'herbe. Et bien là-dedans, tu voyais quand même des traces. Il était passé des mouflons. Ça s'était baladé. Et comme maintenant, des fourrés, ben, il y en a moitié moins sur la commune. Et ben, ils sont plus serrés. Tu as des endroits où tu en auras 50 ensemble. On avait des gens de la fédération qui nous ont intoxiqués en disant « Ouh là là, fallait pas rechasser à Mossujoul le mouflon avant tant d'années parce qu'il allait falloir au moins 2-3 ans pour que ça se remette. » Même s'il n'y avait pas énormément de mouflons, les mouflons qu'il y avait faisaient des dégâts. On s'est dit, mais si on ne chasse pas pendant un an, les paysans vont être fous.
Alors, ils l'ont mis au vote, et puis bon, au vote, Là, il y a eu la majorité pour continuer la chasse. Mais moi, j'ai dit, je l'ai dit à la réunion, j'ai dit, moi, je ne prenais pas la garde, ça m'a fait trop mal au cœur. Et alors, je suis chasseur, mais je n'ai pas chassé ici, quoi. J'ai été chassé sur Sévérac, parce que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, parce que, bon, c'est des coins que je connaissais depuis petit. Tant de mon père, là, il me faisait suivre petit à la chasse. Et tout ce que j'avais connu, ça a été ravagé, quoi. Et puis, je ne le reverrai pas.
Ça a été un désastre quand même. Ça ne s'en remettra jamais, la commune, de ça.
Quand on a vu ce qu'on connaissait, que l'on voit maintenant, il y a même des trucs qu'on ne se serait pas imaginé, hein, que le feu, en brûlant tout, là, il y a des coins que pourtant je connaissais. On n'aurait pas cru qu'il y ait ça au milieu des bois, quoi.
Ça, ce sont tous les vestiges de la vie d'antan, et même très loin dans le temps. Caché et protégé sous les arbres, le cause des siècles et même millénaires précédents réapparaît. Au milieu des chaos rocheux, on voit des tas de pierres tous les 5 ou 10 mètres, les clapasses, empilées pour laisser un peu de sol libre pour cultiver à l'époque. Plus loin réapparaissent les terrasses avec leurs murs en pierre sèche. Et puis, par endroits, d'autres tas de pierres sont différents, plus massifs, circulaires. En fait, c'est un gigantesque cimetière à ciel ouvert et un trésor archéologique.
Une architecture à pierre sèche qui a servi de tombe. Donc celle-là est particulière parce que c'est une très grande structure qui fait presque 15 mètres de diamètre. Avec une grande chambre centrale qui devait être probablement bâtie en encorbellement. Alors on connaît les dolmens par le système de piliers et de grandes tables très lourdes. Mais là, sur le plateau de Bellevieille, on a affaire plutôt à des structures en pierre sèche parce qu'il n'y avait pas de très grandes dalles. Donc ils ont utilisé fabriqué pas mal de structures en pierre sèche. Et celle-ci est particulièrement imposante. Attention. Donc Michel Maillet, président de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine archéologique Aveyronnais, ASPA, et chercheur associé à l'université CNRS qui est basée à Toulouse. Alors, ce qui fait sa singularité, c'est que c'est une immense nécropole, un cimetière préhistorique avec une succession de tombes construites qui se répartissent sur la crête notamment de Bellevieille. C'est unique par sa concentration. On connaît de très nombreux dolmens dans l'Aveyron, dans l'Auxerre, dans le Gard. Mais des concentrations avec cette densité-là, non, sont très rares.
Eh bien, je m'appelle Jean-Jacques Despériès, j'habite à Liocous. Mes ancêtres sont nés à Saint-Marcelin. Et je vis ici depuis que je suis gamin. Mais nous, on n'a pas attendu qu'il y ait le feu pour connaître ces dolmens, ces tumulus. Hein, on les connaît depuis 40 ans déjà. Hein. C'est Barthélemy Prunière qui les avait fouillés en 1880. On connaît très bien cet endroit. Hein. Pendant le Covid, j'ai fait le recensement de toutes les baumes à vin que je connais sur la commune, toutes les sources, toutes les croix. Sur les cavités, je dois être à 150, les croix 63, je crois, et les sources, avec celles qui ont tari, qui ne coule plus maintenant, je crois que j'en suis à 40, vous voyez, c'est pour vous dire. Il y a pas que là-haut qu'il y a beaucoup de choses, il y a plein d'endroits encore. Hein.
Dans ce passé réside une des pistes de l'avenir des zones incendiées. Car la forêt, hormis quelques parcelles sur les zones d'altitude les plus plates, n'a jamais été plantée sur les bordures du Causse. Elle est juste venue là s'étendre à la suite de la déprise agricole du siècle dernier. C'est une autre histoire, mais qui reste marquante dans la mémoire longue du territoire. Alors, après le feu, certains espèrent qu'on pourra peut-être imaginer demain un Causse plus ouvert.
C'est le Causse réel, je pense, voilà. Maintenant que les arbres ont été coupés, bon, c'est encore noir, c'est sûr, c'est pas très beau. On redécouvre des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est dramatique, certainement, parce qu'il y a des gens qui ont perdu des trucs. Ok, oui, ça c'est sûr. Mais visuellement, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui peut être choquant pour quelqu'un qui connaît bien le Causse, je pense pas. Les gens avaient se servi du bois, il y avait des animaux, il y avait des chèvres, il y avait des brebis, les gens se chauffaient, donc il fallait que rien ne se perdait. C'est pour ça que le Causse était comme il était avant.
On se repenche sur des noms qui sont sur la carte d'état-major. Là, le crémadis, ça veut dire créma, c'est brûlé. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passait là avant. Et après, il y a des zones où ça pourrait être aussi pâturé. Je pense à côté du Vorse, là, ils ont nettoyé. Voilà, peut-être pour des petits troupeaux de transhumants. Ça peut redevenir des zones ouvertes. C'est aussi une autre sorte de biodiversité qui s'y installe.
Pour maintenir le paysage dégagé des arbres, il va falloir la pâte humaine et des troupeaux. Sauf que dans le sud d'Aveyron, l'activité principale, c'est Roquefort et l'élevage de brebis laitières. Une production qui nécessite des besoins nutritifs importants, comme l'explique Serge, l'un des derniers éleveurs de sa commune du plateau côté Lozère.
Nous, on les a eu utilisés, et on a mis les brebis jusqu'au Vorse. À l'époque, on était en brebis viande, quoi. C'était moins exigeant qu'un troupeau laitier, on prend pas le risque de mettre de l'herbe comme ça, quoi. Parce que pour faire du lait, il faut de l'herbe quand même beaucoup plus riche, hein. On est sur des communes où il y a eu jusqu'à 14-15 fermes, et on n'est plus que deux d'attitrés, et bientôt plus qu'un sur la commune, hein. Et c'est vrai que les bergers, il n'y en a plus, on préfère clôturer, on préfère... qui se perd un paquet, beaucoup d'herbe, mais de l'herbe qui n'a pas une grande valeur. C'est sûr que c'est pas l'Aubrac, c'est pas... C'est des territoires qui sont presque plus voués à la balade, au tourisme, à la chasse. Voilà.
Aujourd'hui, à l'été 2024, rien n'est vraiment décidé sur l'avenir de la zone. Ce futur s'écrit encore, notamment au travers d'un plan de massif, qui permettra à terme d'équiper le secteur en coupe-feu, réserve d'eau, avec les mêmes outils de gestion qui sont déjà en place dans les zones méditerranéennes. Mais l'équipement ne suffira pas à lui seul. Face aux effets déjà visibles des bouleversements climatiques, c'est une culture nouvelle qui doit se construire, une culture du risque, à laquelle est sensible Jade Bréchignac, qui travaille au syndicat mixte du bassin versant Tarn-Amont.
Un feu, ça arrive, et c'est vrai que moi j'étais assez, enfin pas surprise, mais intéressée de voir les réactions de toutes les personnes en Aveyron, pour qui en fait c'était le premier gros feu. Et donc j'ai vraiment vu ce côté, ça choquait les gens, et ils étaient mais à mille lieues de penser qu'un feu de cette ampleur pouvait arriver dans la région. Les pratiques ne sont pas encore du tout adaptées. Il y a encore des gens qui font des feux en bord de rivière ou des barbecues dans les jardins quand c'est sec et qu'il y a du vent. Puisque la plupart des feux de forêt, en fait, c'est les activités humaines qui les créent. Un événement extrême, en général, ça fait avancer la culture du risque. C'est plus quelque chose qu'on nous raconte que peut-être ça peut arriver. On l'a vécu dans nos maisons, on l'a vécu dans nos familles, on a dû évacuer, on a eu peur. Donc oui, il y a peut-être un premier phénomène un peu de... On est bloqué. Mais derrière, on essaye de s'en prémunir, parce qu'on ne veut pas que ça réarrive. Donc on essaye de se préparer.
On ne pourra pas éviter tous les incendies, surtout quand la fréquence et l'intensité des sécheresses et des canicules va continuer d'augmenter. On peut en revanche apprendre à mieux faire avec, agir collectivement quand une catastrophe survient, et lutter globalement contre la cause principale, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Pour l'heure, notre pays lui-même n'a pas engagé les transformations nécessaires pour prendre en compte l'urgence environnementale à la hauteur du défi qui s'annonce. Même un timide plan national d'adaptation au changement climatique est toujours bloqué en attendant un gouvernement et un cap clair. De la même manière, à Mostuéjouls, le feu n'a pas entraîné de révolution. Dans la commune, aujourd'hui encore, même si on avance, le traumatisme est toujours bien présent. Et je remercie d'autant plus celles et ceux qui ont accepté de confier au micro, ou en dehors, leurs souvenirs et leurs paroles dans ces circonstances. Je sais, pour y vivre, que nos ruralités ne sont pas figées. Elles évoluent, se transforment, mais lentement, au rythme de celles et ceux qui y vivent. Une dynamique qui n'est pas si éloignée de celle d'une forêt. Avec ses espèces emblématiques et cette vie saisonnière. Les multiples et riches floraisons estivales laissent place à des hivers presque silencieux, sous l'œil des vieux arbres et leurs profondes racines bien ancrées, qui laissent parfois peu de place aux nouveaux venus parce qu'ils et elles ne veulent pas être oubliés. C'est dans ce paysage humain complexe qu'il va falloir continuer à faire du pain, bâtir des solidarités et faire du jardin. Pour apaiser ce qui brûle encore dans les cœurs et sous les écorces, et inventer ensemble. Avec pour point commun d'habiter là, sur le causse comme dans la vallée, dans le bourg ou dans les hameaux, dans cet endroit où longtemps encore, on entendra résonner l'écho des flammes.
C'était Résonance du feu, épisode 5, Reconstruire son paysage. Une série documentaire écrite et réalisée par Elsa Souchet et produite pour Radio Larzac. Un projet soutenu par la DRAC Occitanie dans le cadre d'une résidence de journalistes sur la commune de Mossuéjoul en Aveyron.
Retrouvez toute la série sur la page Résonance du feu sur le site radiolarzac.org.